Prima, lieutenant. Alors, à l'attaque.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la tactique. Alors aujourd'hui, on enregistre, nous sommes le vendredi 11 juillet 2025. Il est 14h10 pile et il fait seulement 28 degrés dans le studio. Donc c'est un temps royal pour parler des GAFAM.
Alors si je reprends un petit peu YouTube de deux secondes.
Ouais, hein, vas-y.
Alors, je précise, hein, je n'ai aucun intérêt économique par rapport aux GAFAM, c'est pas ça l'idée. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ennemi pendant longtemps des GAFAM, peut-être encore un petit peu aujourd'hui, c'est l'industrie culturelle. Parce qu'en fait, il y a plusieurs logiques là. Parce que prenons un exemple, un peu par rapport à ce que tu disais, alors je connais pas le site qui a disparu que tu citais là, mais il y avait un site, et le nom m'échappe, et peut-être certains vont le dire, qui existait, sur lequel on s'échangeait gratuitement de la musique qui était tout simplement interdite. Alors, je ne sais plus, c'est pas Napster, quelque chose comme ça.
Napster, c'était un service d'échange, mais
voilà.
ZPRLB, c'est un site qui référençait des liens torrents dans le
Alors, Napster, c'était un site dans lequel on pouvait s'échanger, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des plateformes comme alors Facebook, etc., là, mais sont à fond pour les échanges gratuits. Ils s'en tapent de. Alors, c'est là qu'il y a une espèce de contradiction entre différents types, alors disons-le comme ça, de modèles économiques ou de capitalisme. C'est en gros les droits de propriété intellectuelle, le droit d'auteur, tout simplement. En gros, par exemple, imaginons, j'ai publié un bouquin, voilà. Donc à ce titre, j'ai un droit d'auteur. Mon éditeur a fait, j'ai fait un travail, mon éditeur a fait un travail, voilà. Bon, ben voilà, n'importe qui aujourd'hui qui a à peu près, je pense qu'il n'y a même pas besoin forcément d'avoir une culture geek extrêmement développée, peut prendre mon bouquin et le balancer gratuitement sur Internet. Mmh. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc là, je pense que les plateformes comme YouTube, etc., sont pas forcément opposées à ce genre de choses. Alors, sauf qu'il y a eu quand même des bagarres, parce que l'industrie culturelle est pas forcément. Il y a eu quand même des grosses bagarres entre les gens qui créent du contenu, on va dire ça comme ça, peu importe le type de contenu, on s'en fout. Hein. Donc du contenu, que ce soit des livres, des films, des morceaux de musique, etc. Et les gens qui peuvent diffuser ce contenu, on va dire, gratuitement. Donc qui vont mettre en relation les gens, quoi. Voilà. Et donc il y a quand même de logique là-dessus. Et je crois qu'il y a eu quand même un peu des alors honnêtement, je suis pas capable de raconter l'histoire en détail. Mais il me semble qu'il y a eu quand même beaucoup de bagarres autour des droits de propriété, hein, et de droits de diffusion, qui ont pu contribuer effectivement à réduire le nombre de choses. Bon, après, alors, une nouvelle fois, moi, quand je suis pas un grand consommateur de musique, mais quand il m'arrive d'aller sur par exemple Spotify ou sur, comment dirais-je, ou même sur YouTube, bon, alors, je suis sans doute beaucoup moins pointu que toi au niveau musical. Mais j'avoue quand même arriver à trouver quand même pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on s'appelle totalement légales ou pas je ne sais pas, honnêtement, en fait. Je ne sais pas.
Moi, c'était juste surtout la standardisation à l'accès à l'information. Pour moi, j'ai découvert l'informatique en même temps que le monde du libre. Et ce côté accessibilité de... Mais la diversité aussi d'informations... Et donc c'est surtout cette standardisation qui me fait peur et je pense que c'est un bon moment pour enchaîner sur un point que Jean tu avais noté, donc parler pouvoir politique et idéologique.
Une question peut-être pour finir sur le domaine économique, en fait, parce que certains parlent de nouveau capitalisme de rente, etc. Est-ce que d'après toi c'est effectivement ces GAFAM-là transforment le capitalisme, comment on pourrait dire, je sais pas, enfin, plus fordiste parce qu'il n'existe plus longtemps, mais néolibéral, etc., vers un nouveau capitalisme de rente.
Alors, bon, tu poses une question qui est très intéressante et qui est assez complexe. Hein, tout ça pour... En général, on dit ça quand on ne sait pas bien répondre, donc c'est ce qui est arrivé, mais je vais quand même donner quelques éléments de réponse. Une première remarque, et après, je vais répondre un peu plus à ta question. J'avoue que je suis un petit peu agacé. C'est peut-être pas le bon terme. Mais j'avoue que certains termes, tu en as employé quelques-uns tout à l'heure, alors c'est pas qu'ils m'agacent, parce que je trouve intéressant de développer des choses, etc. Mais de qualifier, par exemple, le capitalisme actuel, le capitalisme de surveillance, je trouve ça un peu étonnant. Pourquoi je trouve ça étonnant ? Parce que, bah, je ne sais pas, mais le capitalisme, la surveillance, c'est un élément du capitalisme. Comment dirais-je, quand on lit un peu certains travaux de certaines personnes, qui sont des invités d'ailleurs d'Attaque, pour ne pas citer Henri Jorda, comment dirais-je, surveiller les gens, par exemple, c'est absolument pas nouveau, quoi. Hein, par exemple, le fait, dans les anciennes entreprises, dans les anciennes manufactures, il y avait tout simplement une énorme horloge qui, dans la cour, bah, c'est pas neutre, quoi. La figure du chronomètre chez Taylor, c'est quand même pas neutre non plus. Je crois que tout le monde connaît ça autour de cette table, les fameux pointeurs pour le boulot, c'est pas neutre non plus. Donc, réduire le capitalisme en disant « c'est du capitalisme aujourd'hui de surveillance », non, pas d'accord. Ou tout du moins, c'est insuffisant. Le terme de techno-féodalisme pose problème.
Capitalisme de rente, c'est ça ? C'est la même chose ?
Alors, pas forcément la même chose. Ils font quand même un lien avec le féodalisme, etc. Il y a quelque chose qui me titille là-dedans, qui m'embête un petit peu. Alors, je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose qui m'embête un petit peu. J'ai lu Cédric Durand, donc un économiste vraiment intéressant, qui reprend ce genre de choses. Bon, c'est intéressant, mais de là à faire un parallèle avec le Moyen-Âge, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Enfin, je n'ai pas encore de réponse. Alors, si je réponds un peu plus à ta question, alors, je vais pas y répondre dans le détail, parce que, bon, je ne vais pas saouler tout le monde, mais... alors, si je prends 3-4 points... alors, je vais m'appuyer un peu sur Schumpeter. Hein, donc, c'est un auteur que je connais relativement bien. Chez Schumpeter, dire comme chez Marx, il faut quand même le dire, le capitalisme, c'est quelque chose qui a survécu ? Bah, tout simplement parce qu'il se transforme, quoi. Si le capitalisme, admettons, qui a commencé à exister au 15e, 16e siècle, ne s'était pas transformé, bah, il serait mort. Tu viens de parler du fordisme. C'était quoi le fordisme ? C'était l'idée, à un moment donné qu'il va falloir que l'augmentation de l'offre, de la production, colle avec l'augmentation de la demande. Quoi. Enfin, que les deux soient à peu près, alors je vais employer des mauvais mots, mais en équilibre, en bonne dynamique, etc. Voilà. Sauf que bah, ça ne marche pas forcément bien, etc., pour différentes raisons. Bon, bref. Donc, je pense que les GAFAM, quelque part, contribuent aux transformations du capitalisme. Je ne suis pas sûr que ça soit... Enfin, le capitalisme, il est toujours là. Est-ce que c'est un nouveau capitalisme ? Bah, si on considère que le capitalisme, par nature, entre guillemets, il se transforme, bah oui, c'est nouveau. Mais n'empêche que entre le capitalisme du 19e siècle, le capitalisme du début du 20e et celui du 16e siècle... Bah pareil, à chaque fois, il y a des nouveaux, quoi. Donc, réduire le capitalisme à du nouveau, ça me semble un peu étrange, parce que c'est quelque chose qui se transforme. C'est un système qui se transforme. Par exemple, les entreprises aussi, elles se transforment. Mais il y a des choses qui persistent. Je viens de parler de la surveillance et de la discipline. Le progrès technique, c'est absolument pas nouveau, quoi. Je veux dire, le progrès technique, c'est un des moteurs du capitalisme. Les classes sociales, bon, bah, elles peuvent aussi changer. Il y a pas mal de travaux chez les sociologues en ce moment sur ce qui se passe dans l'économie numérique, par exemple, avec l'émergence d'une nouvelle classe moyenne supérieure, etc. Certains parlent de classe virtuelle ou des choses comme ça. Bon. Après, il y a le rôle de l'État aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État a un rôle aussi dans l'émergence des GAFAM. Alors, je suis un peu gêné par l'idée d'un nouveau capitalisme, sauf à dire que, bah oui, effectivement, le capitalisme de 2025, c'est pas le capitalisme de 1965. Voilà, donc je sais pas si j'ai bien un peu répondu à ta question. Voilà.
Moi, pour développer ta question, parce que c'est ça que j'avais lu un truc, mais en fait, si tu veux plutôt détailler pourquoi tu avais posé cette question, donc par rapport au capitaliste de rente, moi, il me semble qu'on avait, je ne sais plus si c'est Attaque ou d'autres, un autre site qui avait publié là-dessus et qui mettait en parallèle justement à l'époque où il y avait des terres et en fait quand tu passais sur les terres d'un seigneur tu devais payer ça. Et en fait Internet c'était à peu près devenu la même chose en fait, c'est en ça que tu faisais...
Bah, chez Amazon par exemple c'est relativement clair, alors les autres je ne sais pas mais...
Bon, bah, Google il est payé, je pense que c'est la pub principalement oui. qui finance et donc on paye un droit de...
Google, c'est la pub, mais Amazon, pour acheter et pour vendre, bah, Amazon prélève une rente, quoi, c'est ça. Hein, alors qu'avant, il y avait un échange direct entre le consommateur et le producteur par le marché, on peut dire ça comme ça.
Bah, ça dépend ce que tu appelles rente. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une rente ? Bah, en fait, c'est pas si simple que ça à expliquer. Alors, si on regarde un petit peu, alors, bon, je l'ai fait, mais très très vite. Hein, quand on regarde en économie la rente, tu as plusieurs cas de rente. La plus typique, c'est la rente agricole. Moi, et toi aussi d'ailleurs, Jean, hein, on a fait des études d'économie, hein. Donc, bon, ça soigne bien. Donc, enfin, je crois. Donc,
vous en êtes remis.
Ouais, à peu près, quoique. Donc, par exemple, on a étudié la rente un peu chez Smith ou chez Ricardo, donc des auteurs comme ça. Donc, voilà, donc ça veut dire que par exemple, si j'ai une meilleure terre que vous, ben voilà, je vais toucher une rente parce que je vais pouvoir payer, je vais avoir grâce à la qualité de ma terre, je vais avoir des récoltes plus importantes. Il y a aussi ce qu'on appelle la rente de monopole. Donc là, ça renverrait effectivement peut-être aux GAFAM, là, on est d'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, comme j'ai une puissance économique de marché, je suis capable d'imposer des prix, je suis capable d'imposer un paiement, j'ai ce qu'on appelle un pouvoir de marché sur les consommateurs. Mais il n'y a pas que les GAFAM qui ont un pouvoir de marché. Bah enfin, si on prend les grandes surfaces... Alors peut-être pas tous les commerçants, si non, je peux me permettre, mais les grandes surfaces, ils ont un système, ils ont des centrales d'achat. Quand ils vont discuter le bout de gras avec les producteurs, les petits producteurs agroalimentaires ou les producteurs, les petits producteurs, alors les petits je parle, hein, ou les moyens producteurs de lait, là ils ont une forme de pouvoir et ils vont avoir de la rente. Ils vont être capables d'imposer un prix aux consommateurs et même des fois nous faire croire qu'ils nous font des cadeaux, par exemple avec les fameux catalogues. Mais les catalogues avec les prix plus bas, c'est pas les producteurs qui les payent. Enfin, c'est pas les grandes surfaces qui les payent, c'est les producteurs. Donc chaque année, au mois de mars, il y a des grands raouts autour des discussions, autour des prix. Bon, ben voilà. Donc là, je pense que la rente, alors je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais je pourrais l'appeler un peu comme ça. C'est-à-dire que ça va être un petit peu la capacité finalement à imposer un prix. Alors, pour les économistes libéraux, la rente, elle vient de quoi? Ben, elle vient parce qu'il n'y a pas assez de concurrence, quoi. Voilà, donc s'il y avait plus de concurrence, ça serait chouette. Du moment qu'il y a de la concurrence, les prix sont tirés vers le bas.
Ouais, mais
et
ça,
donc là,
par exemple...
moi je répète ce que disent les libéraux bêtement, là, j'allais dire. Hein. Et donc, comme ça, les prix seraient plus bas, quoi. Voilà, donc c'est un peu le logiciel de base du libéralisme, en disant le libéralisme, ça favorise les consommateurs. Hein, donc voilà. Alors après, oui, effectivement, donc, par exemple, il y a un certain nombre d'économistes qui parlent de verrouillage. Ils disent que les GAFAM sont capables de verrouiller. Donc ils verrouillent, ils sont capables de contrôler. Et ils essaient d'ailleurs d'empêcher les gens de quitter les applications, etc. Alors, moi, une nouvelle fois, je ne suis pas un grand utilisateur des réseaux, mais par exemple, ils vont empêcher l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher le fait que, par exemple, si je dis n'importe quoi sur Facebook, ça va être compliqué, par exemple, de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas sur Facebook. Ah bah, or, là, il y a des lois qui passent en ce moment-là, qui essaient de secouer, dans l'Union européenne, qui essaient de secouer un peu les plateformes, là, pour développer l'interopérabilité.
C'était notre moteur de marche en Europe, c'est qu'avec le monde du libre, c'était l'interopérabilité, justement, c'est le fait d'avoir une application qui te permette de discuter avec d'autres applications.
Oui, tout à fait.
Là, c'est aussi, si tu es chez Google, tu vas parler avec des personnes sur Google, et pour les autres applications, c'est pareil. Et en Android, c'est pareil, j'en parlais tout à l'heure, c'est basé sur quelque chose de libre et d'open source, et tu ne peux discuter qu'avec des personnes qui sont sur Android. Et... pour rebondir donc à cette notion de rente, est-ce qu'on pourra la mettre en parallèle? Tu parlais des centrales d'achat, mais je les mettrais plus en parallèle avec les franchises. C'est qu'à un moment, tu prends l'Empire McDonald's, à un moment donné, c'est plus maintenant, ils font que de la location de terrain et de la franchise. En fait, d'une certaine façon, ils vivent de rente, ils ne produisent plus rien, ils achètent ils vivent de leur nom. Et c'est des personnes qui vont investir de l'argent et qui vont payer une rente juste à quelqu'un qui, à un moment donné, a volé une idée ou a eu une idée, en fait.
Ah, il paye pas. Enfin, je ne connais pas exactement le modèle que tu cites, là. Donc, moi, la rente, ça sera plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que McDonald's va vivre de la rente, c'est-à-dire en louant, par exemple, des espaces, et le nom, surtout.
C'est ça.
Moi, je pense que... Je pense que le terme d'économie de rente est surtout lié au pouvoir, à la puissance qu'on évoquait en début d'émission, de la part de ces grandes entreprises. Souvent, des fois, on compare la situation actuelle avec la situation de la fin du 19e siècle aux États-Unis, avec les grands trusts comme la Standard Oil, des choses comme ça. Donc, ces entreprises aussi, dans le pétrole, avaient des véritables rentes, qu'ils ont encore d'ailleurs.
Mais pourquoi, à cet endroit-là, on a fait des lois antitrust pour éviter quelque chose et qu'on les fait pas à l'heure actuelle?
On peut en parler si tu veux, hein, donc des lois antitrust. Alors c'est une histoire assez complexe. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut quand même parler un peu de politique. Donc,
on va y venir.
Ouais, on va y venir. Ah bah, je fais juste peut-être une petite transition, mais tu me coupes si c'est trop tôt, là.
Il y a une scie juste à côté de toi, si tu veux.
Voilà, vas-y, n'hésite pas. Comment dirais-je ? Par rapport à l'antitrust, bah si, c'est revenu. C'est revenu, l'antitrust. Par exemple, sous Biden, et même un petit peu avant, tu as un certain nombre, notamment de juristes. Alors, il y a une femme qui est assez connue qui s'appelle Lina Khan, qui est une juriste, en fait, qui a publié un certain nombre d'articles, notamment qui cognaient sur le modèle Amazon. Et comment dirais-je, il y a une volonté quand même dans les années, on va dire 2010-2015, justement de réduire le pouvoir de ces très très grosses entreprises, y compris aux États-Unis. Hein, y compris aux États-Unis. Alors, si je remonte un petit peu, dans les années 70, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a une transformation de la politique de concurrence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une école, on va dire, économique qui a plutôt gagné, c'est l'école de Chicago. Alors, l'école de Chicago, elle va dire quoi ? Elle va dire, c'est pas grave qu'il y ait des grosses entreprises. Si ces grosses entreprises contribuent à réduire les prix, bah, ça va satisfaire les consommateurs. Donc, l'indicateur clé de la concurrence, ça va être de dire, si... La concurrence, elle existe quand même, même si elle est, alors, je vais dire virtuelle, hein, je mets des guillemets virtuels, si elle est capable d'aboutir à une baisse des prix, c'est bon, c'est une logique concurrentielle, même s'il y a des très grosses entreprises. Donc on va pas empêcher l'émergence de très grosses entreprises. Reagan, c'est pareil. Sous Reagan, là on est en plein néolibéralisme, Reagan, alors il y a eu le cas AT&T qui a été découpé en morceaux, etc., mais bon, passons. Voilà. Donc, il y a eu quand même une transformation de la politique de la concurrence. Alors, je fais très, très vite. Hein. Après, ce qui s'est passé, c'est que, je répète, hein, dans les années 2015, par là, 2010-2015, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont dit non, ça va vraiment pas, cette histoire-là. Les entreprises sont vraiment trop, trop puissantes. Les GAFAM sont vraiment trop, trop puissantes. Et donc, il y a eu quand même quelques velléités de découper. Il y a des gens qui ont réclamé le découpage de Google, par exemple. Il y a plusieurs entreprises qui ont réclamé le découpage de Google. Ça n'a pas été fait. Et puis, il y a l'arrivée de Trump aussi. Donc là, l'arrivée de Trump, ça met totalement en cause, enfin, globalement en cause, on va dire, le fait de revenir à l'antitrust qui pourrait contribuer à découper les entreprises. Bon, après, bon, je ne suis pas historien et je ne me suis pas penché à fond sur cette histoire. On cite toujours quelques entreprises qui ont été découpées. Toutes les entreprises n'ont pas non plus été découpées à la fin du 19e.
Hein. Non,
hein, faut quand même aussi être clair là-dessus. Hein.
Oui, mais alors, moi, je fais juste un parallèle. Quand on prend aujourd'hui l'Empire Bolloré et son pouvoir dans les médias, entre la fabrication, la publication et le contrôle, à un moment donné, je mets juste en parallèle de ça, et je me pose la question. Donc c'est aussi pour ça que je voulais aborder le sujet.
We'll be right back.
tes dernières phrases. Donc, alors, au niveau politique et au niveau idéologique, donc, enfin, l'élection Trump a mis en valeur, je suppose que ça existait avant, une certaine idéologie donc, de ces GAFAM ou de ces principaux responsables, Musk, etc. Et donc, souvent, on dit que ce sont des libertariens ou des néo-libertariens qui s'opposent aux néo-réactionnaires, enfin, etc.
C'est donc, un peu complexe. Là.
C'est un peu complexe, mais...
On abordera tous ces nouveaux mots dans une prochaine émission en 2028.
Non, il va tout nous expliquer maintenant. Parce qu'on a toujours le mythe, donc... je sais même plus qui c'est, hein, qui invente... dans son garage.
Ah oui, oui. C'est Apple.
C'est Apple.
Ouais, c'est un peu le modèle donc, Apple. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais, donc, c'est Steve Wozniak, Steve Jobs.
Ils inventent dans leur garage un truc fabuleux et puis résultat des courses.
Oui, enfin, ils ont tous une famille qui avait de l'argent derrière. Hein, et,
Non, mais je parle de mythologie.
De mythe, hein, d'accord. De pardon, mythes, j'ai dû couper à un moment donné.
Et résultat des courses, donc, quand on voit les prises de position de ces gens-là, ils sont loin d'être libertaires. Alors, sont-ils libertariens ?
Ah, alors, libertaire, c'est pas toi que je veux dire ça, même à vous. Hein. Libertaire, libertarien, c'est pas exactement la même chose. Hein.
On est tout à fait d'accord.
Alors, c'est vraiment hyper compliqué comme remarque et comme question. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Bah, tout simplement pour la raison suivante. Tout à l'heure, quand on a parlé un peu de l'emploi, hein, on a bien dit que, comment dirais-je, dans les GAFAM, il n'y a pas que les PDG, quoi. Donc, Zuckerberg, Bezos et compagnie, quoi. Donc, il n'y a pas que ces gens-là. Il y a aussi d'autres personnes qui travaillent, des informaticiens, etc. Alors, ils ne sont pas tous... Alors, si on prend que les grands PDG, hein, ils ne sont pas tous libertariens, quand même. Hein. Ils ne sont pas tous libertariens et ils ne sont pas du tout... Enfin, ils ne sont pas tous non plus libertaires. Ils sont même plutôt réactionnaires, certains. Hein, complètement réactionnaires, voire même, disons-le, hein, racistes, eugénistes...
Ça, c'est Musk.
Ouais, notamment Musk, mais pas que Musk. Par exemple, Trump, c'est quand même quelqu'un qui, par exemple, est obsédé par le QI, hein, l'intelligence. Donc il n'arrête pas de dire, oui, de toute façon, vous êtes là, c'est les gens intelligents qui réussissent, quoi. Donc en gros, la mythologie, tu parlais de mythologie, je vais reprendre ce terme qui est intéressant. Hein. L'imaginaire, la mythologie, etc., c'est quand même de dire... Quand on voit, par exemple, lors de la cérémonie d'investiture de Trump, c'est hallucinant. Nous, en France, quand il y a un nouveau président, bah, je ne sais pas, il va présenter des nouveaux ministres, des gens comme ça. Là, qu'est-ce qu'il y avait au premier rang ? Tous les gros PDG de la Silicon Valley, des gens plus ou moins connus, etc. Qui étaient devant littéralement les ministres, enfin, l'équivalent de ministres. Et voilà. Et quand on lit un petit peu le discours de Trump, bah, Trump, voilà, c'est vous êtes intelligent. Enfin, moi, je suis vachement intelligent, bien sûr. Je suis hyper intelligent, même. Je suis un mec génial. Hein. La preuve, c'est que je suis là. Et forcément, vous aussi, vous êtes brillant et vous êtes intelligent. Donc, en matière idéologique, il y a quand même déjà un truc qui est intéressant. Alors, peut-être que je diverge un peu par rapport à ta remarque, mais je vais y revenir sur le libertarien. C'est qu'il y a quand même un culte de l'inégalité, pas de l'égalité, hein, de l'inégalité littéralement. Et l'inégalité, c'est quelque chose d'absolument normal chez ces gens-là. Hein. Alors, ils ne sont pas tous libertariens. En plus, bon, moi, je ne suis pas un expert libertarisme, mais les libertariens, souvent, leur ennemi, c'est l'État. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire. Hein. Parce que s'allier avec un type comme Musk, comme Trump, qui incarne quand même quelque part l'État, enfin en partie l'État quand même, ça peut paraître quand même un petit peu contradictoire. Hein. Donc ces libertariens, enfin une partie de ces gens qui sont libertariens, ils s'associent avec quelqu'un qui incarne l'État. Parce qu'ils ils ont été quand même construits en partie grâce à l'État.
Non. Oui, bien sûr, avec les subventions.
Pour envoyer ces
fusées,
ils touchent de l'argent.
Bien sûr.
Ils touchent de l'argent de l'État américain.
Oui.
Enfin, surtout de.
L'État américain, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, mais on ne va pas trop peut-être savoir une histoire de libertarisme, compte en fait. Alors, c'est depuis Obama, ça. Hein, donc, l'idée de développer en fait l'espace, les conquêtes de l'espace, c'est acté. L'acte de base, c'est de dire la NASA maintenant ne suffit plus. Donc, il faut aller vers un partenariat public-privé. Il faut aller vers un partenariat public-privé. Donc, effectivement, on a déroulé le tapis vers Musk et aussi Bezos, un petit peu. Hein. Alors, beaucoup moins Bezos, mais il y a un peu cette idée-là. Alors par rapport à...
Bezos, je crois que son trip, c'est plus l'ascenseur spatial, lui.
Et il est quand même un petit peu aussi... Je crois qu'il me semble qu'il a décroché des contrats. Là. Il faudrait un petit peu rivaliser avec son grand ennemi Musk au niveau du réseau Starlink. Là. Alors, il a un autre réseau dont le nom m'échappe. Hein. Et je me demande s'il n'est pas en train de passer un contrat avec l'Union Européenne, d'ailleurs.
Peut-être, c'est juste qu'en fait, il a un projet mégalo qui est différent de celui de Musk par rapport à comment on pourrait habiter autre part. J'invite les personnes à regarder un peu certains de ces projets, ils sont rigolos.
Alors, par rapport aux libertariens, je comprends ce que tu dis. Hein. Donc, si on prend le cas de libertariens, admettons, donc il y a un certain nombre de grands PDG qui sont plutôt libertariens, en partie, mais pas totalement. Comment dirais-je ? Bon, effectivement, ça veut dire quoi ? Bah, déjà, un rapport à l'État. Bon, ils aiment les. Enfin, normalement, un libertarien, il aime pas trop l'État. Quoi, mm-hmm. hein. Donc, baisse des impôts, etc. Responsabilité individuelle. Et puis, il y a un truc aussi qui les intéresse, dont on a un petit peu parlé quand même au cours de l'émission, là, c'est la liberté d'expression. Donc, liberté totale d'expression, normalement. Donc, à la limite, on pourrait dire n'importe quoi sur les ondes ou s'envoyer des photos, etc. Donc, il y a des choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça comme idéologie. Alors, je ne sais pas si je dois développer ou pas.
Quelques mots, pourquoi pas.
Alors, par exemple, il y a un grand truc peut-être qui est assez présent, notamment dans la Silicon Valley et parmi les GAFAM, c'est ce qu'on pourrait appeler le technosolutionnisme. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est-à-dire que l'innovation, le progrès technique va nous sauver de tout. Quoi. Hein, c'est la solution absolument ultime à tous nos problèmes. Donc, il ne faut surtout pas entraver le progrès technique, l'innovation et les entrepreneurs. Hein. Donc, il faut les laisser faire. C'est eux qui savent mieux que les autres. C'est notamment dans l'IA, par exemple. Il faut les laisser faire dans l'IA, mais pas que dans l'IA, par exemple. Et travailler sur le vivant.
Le transhumanisme fait partie de...
Oui, exactement. De ça. Donc, le transhumanisme, c'est quand même quelque chose qui est assez... Bah, Musk, par exemple, il est un petit peu là-dedans aussi, et d'autres aussi. Hein. Donc, chez Google, par exemple, hein, il y a même des gens qui... Enfin, il y a eu des contributions financières au transhumanisme. Donc, à la fois transformer l'humain et pourquoi pas passer au post-humain, quoi. Donc, transformer l'humain... Pour certains, à la limite, l'humain, on va le dépasser, on va nous rendre plus intelligents, etc. Et puis, on pourrait même encore aller plus loin. Et là, on est presque... Parce que c'est des gens qui aiment beaucoup la science-fiction, en fait. Hein. Donc, c'est pas forcément une petite anecdote comme ça. Hein. Donc, c'est quand même des gens qui sont nourris de science-fiction, des gens qui sont nourris de mythologie, etc. Bref. Donc, passer à des gens... on a l'impression parfois d'être dans des films de super-héros, quoi. Alors, je ne sais pas si vous êtes des grands geeks, hein, mais il y a un truc assez intéressant. C'est peut-être un peu anecdotique, mais pour moi, ça n'est pas totalement. Musk, à un moment donné, apparaît dans un film où il y a Iron Man. Donc, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Iron Man, le super-héros, là. Et le héros, c'est un grand PDG, un grand inventeur. Bah, il aurait été plus ou moins inspiré de Musk, quelque part. Donc, il y a quand même une idée que le progrès technique, de toute façon, sera la solution à tout. Et peu importe qu'on fasse crever la planète, parce que de toute façon, le progrès technique nous sauvera. Donc, il ne faut absolument pas ralentir le progrès technique. Il y a même un courant de pensée, qu'on appelle les accélérationnistes, donc qui préconise en fait de laisser vraiment accélérer le... Enfin, si accélération, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais le progrès technique, de laisser faire... de laisser les gens vraiment aller jusqu'au bout de leur truc, de laisser expérimenter. Et on voit ça dans différents champs, si j'ose dire, en faisant un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on voit bien, par exemple, qu'il y a un recul au niveau de la lutte contre, je ne sais pas, en France, contre les pesticides, etc. Et quand on entend finalement les gens, on dit, ben voilà, il ne faut pas arrêter le progrès, quoi. Quand Macron nous sort le coup des Amish, on pourrait se dire que d'une certaine manière, lui aussi, il adopte un peu une mentalité technosolutionniste, quoi.
Hein. Moi, j'avais lu un article il n'y a pas très longtemps, puisque tu disais qu'ils étaient influencés par donc, la science-fiction,
oui. Hein,
les héros de science-fiction. J'avais lu un article, je ne sais plus quel... Enfin, un article qui disait qu'ils étaient fortement aussi admiratifs devant les grands empereurs romains.
Oui, tout à fait.
Le pouvoir. Quoi.
Bah, le PDG de Meta, par exemple, comment il s'appelle
Zuckerberg.
Voilà, merci Zuckerberg, a donné à ses filles le nom des noms romains. Quoi. Oui, effectivement, il adore l'histoire. Alors, c'est sans doute lui à quel tu faisais référence dans cet article-là. Oui, ouais, tout à fait. Ou le Seigneur des Anneaux, par exemple. Hein, donc, il y a aussi une espèce de captation.
Ouais, genre de démiurge, comme on dit.
Ouais, un côté démiurgique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, mais un peu complexe en même temps.
quand on regarde un petit peu les idéologies, alors une fois, j'insiste, hein, c'est surtout peut-être des idéologies sur vraiment l'élite de l'élite. Hein. Parce qu'en dessous, c'est un peu différent.
Oui,
en tout cas, ce que j'ai lu, c'est pas exactement la même chose. Mais quand je dis en dessous, c'est pas forcément les gens très très modestes, etc. Hein, ça peut être aussi, par exemple, la nouvelle classe moyenne supérieure. Ils adoptent pas forcément l'intégralité de ce genre de discours. Hein, ils sont peut-être pas complètement là-dedans. Mais il y a quand même vraiment une fascination pour la technologie.
Pouvoir. Et le pouvoir.
Oui, le pouvoir. Alors oui, c'est ça que je voulais en venir. Une des raisons sans doute de l'accointe, enfin, c'est assez complexe, mais une des raisons sans doute de l'alliance entre Trump et les gens de la Silicon Valley et des GAFAM, c'est l'aspect messianique.
Ouais.
On est vraiment dans le messianisme. On est dans un espèce de grand projet, peut-être même civilisationnel, comment s'appelle, il y a une volonté, les États-Unis existent encore, c'est la civilisation, nous avons la bonne technologie, nous avons les meilleurs entrepreneurs, comme je le disais tout à l'heure, nous avons les gens les plus intelligents. Voilà.
Nous avons surtout les grands mâles.
Voilà, exactement, tout
pas
à fait.
Femme, hein.
Tout à fait, vous avez raison. En plus, il y a un renouveau du masculiniste.
Ah, c'est énorme.
Complètement. D'ailleurs, on voit bien le PDG de Meta, là, les transformations qu'il a pu faire, même physiques. Même Jeff Bezos, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a apparu plus musclé, avec un chapeau de cow-boy. Non, mais c'est pas
le mythe du cow-boy.
C'est ça, le mythe du cow-boy, le mythe de la frontière. Donc, il y a vraiment aussi, je pense, chez ces gens-là, une partie du mythe de la frontière. Quand on regarde un peu l'histoire des États-Unis, on a conquis la frontière comme ça jusqu'en Californie, etc. On s'est arrêté. Mais là, on va aller vers l'espace. Tout à l'heure, on parlait du métaverse. On va conquérir d'autres espaces, d'autres éléments. Et on n'a pas terminé, quoi. On peut continuer. Et puis, pourquoi pas aller conquérir Mars ou je ne sais pas trop quoi, aller conquérir l'espace. Parce que c'est aussi ça, le truc. Hein. Préparons, finalement, le terrain vers l'espace, etc. Certains, je pense qu'au-delà de la puissance et de l'économie et de la volonté de puissance qu'ils peuvent avoir, je pense que certains y croient. Vraiment. Ou alors, c'est peut-être moi qui est naïf. Ce qui n'est pas impossible.
Non, en plus, en fait, si on veut... tu peux regarder... le film de Social Network, donc oui. le début de The Facebook, comment Zuckerberg il a créé ça, tu peux te poser des questions justement sur la prétention du mec en fait, sur, à un moment donné c'est une rupture par rapport à une gonzesse qui lui dit tiens, je vais créer un site où on va pouvoir donner des notes aux filles de mon lycée quoi. Et donc tu te dis waouh, c'est quand même ça te donne une image de ce qu'il y a dans sa tête quand même au départ.
Oui, ça part de loin, dis donc.
Non, mais c'est...
Alors après, ce qui est intéressant, des fois, c'est un peu de lire les historiens ou des sociologues par rapport à l'origine aussi de ces gens-là. Alors notamment, moi, j'ai un peu travaillé sur la Silicon Valley. C'est intéressant, parce que tout à l'heure, tu parlais des libertaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Silicon Valley, par exemple, et notamment des gens, les anciens PDG de Apple, etc., c'est des gens, justement, parce que c'est une vieille entreprise, hein, 76. Donc, c'est des gens dans les années 60-70 qui ont été influencés, par exemple, par la contre-culture, qui ont été influencés par les hippies. Certains ont même fumé des trucs, consommé du LSD, etc. Parce qu'il y a en fait une volonté... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une volonté de se dépasser. Hein. Alors, on ne va pas forcément faire la révolution aussi. Hein. Là, on ne va pas s'emparer du pouvoir, etc. Mais c'est presque une révolution individuelle dans les années 60-70, etc., qui se développe. Et il y a une partie des gens qui en fait, sont l'héritier de tout ça. Et les réseaux sociaux, le fait d'aller vers les autres, de se développer, etc., pourraient être aussi... Enfin, est mis en relation par les historiens, etc., là-dessus. Et donc, il y a des restes un petit peu... Et c'est là qu'on voit que le capitalisme... Alors, on en pense ce qu'on en veut, c'est un truc qui peut apparaître quand même assez fabuleux. Enfin, fabuleux, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, être capable de récupérer, des fois, des valeurs. Par exemple, des valeurs autour de la liberté, de l'autonomie, de la réalisation de soi, de les transformer en messages très positifs. Bien sûr, en faisant fi de toutes les inégalités, de la destruction de la planète, de l'emprise, parce qu'il y a quand même une super emprise quand même, hein, de la part, de récupérer tout ça pour le transformer en message politique et économique et finalement alimenter un peu la machine, quoi. Parce que, enfin, moi, je peux comprendre qu'on soit... Enfin, moi, je fais partie des gens qui sont très, très agacés par l'usage du smartphone, par les gens, etc., mais en même temps, ça peut apparaître comme fascinant. On a son smartphone, on a l'univers, enfin, on a le monde entier à sa botte presque. Ouais. On peut avoir ce fantasme-là.
C'est pour ça que j'en veux pas, je ne vais pas m'habituer à ces facilités.
Oui, mais il y a quand même aussi, là, par rapport à l'usage du smartphone, là, je pense qu'il y a une grande responsabilité des États. Je passe à l'éducation nationale, au collège. Dans les collèges, ben, les gamins ne peuvent pas se passer du smartphone. Tout passe par le smartphone, les notes, les devoirs à faire,
c'est vrai,
les profs absents.
Les groupes voilà. WhatsApp avec la maîtresse pour les enfants.
Alors, je suis en partie d'accord, mais pas totalement, parce qu'il y a aussi les familles qui alimentent le truc en faisant les groupes WhatsApp, en autorisant leurs gamins à avoir leur téléphone. Alors effectivement, là, je vais apparaître pour un vieux con, mais c'est pas grave, j'assume.
Mais réponse des gamins, je peux pas faire autrement.
Mais voilà, je peux pas faire autrement. Mais c'est pas que l'État.
Et les parents,
moi, Alors, je dis pas que l'État est pas responsable ou que les enseignants. Je suis enseignant. Hein. Donc je dis pas que les enseignants sont pas non plus en partie responsables. Mais il y a une espèce d'élément systémique qui fait que le numérique apparaît comme un outil extrêmement efficace, puisque c'est un outil presque dans l'ubiquité. C'est-à-dire que finalement, on se dit, on peut être partout. Et à tout moment, on peut recevoir de l'information H24, de l'information du bout du monde ou je sais pas trop quoi. Donc il y a une espèce de choses comme ça, effectivement. Et la pause numérique ou le retrait numérique, ou par exemple même dans les entreprises, dire bon, moi je réponds plus à mes mails, je réponds plus à mes SMS, je réponds plus à je sais pas quoi à partir de 18h ou 18h30, bah, il faut lutter en fait. Moi je pense que c'est pas qu'une question d'État. Je pense que c'est aussi une question de lutte individuelle, de micro-lutte. Alors, on va faire la révolution avec ça. Mais juste pour terminer là-dessus. Donc, de micro-lutte, quoi. Je pense que, voilà.
J'ai fait un atelier avec uniquement des enseignants de la maternelle jusqu'à l'université. Et tous se plaignaient de l'introduction, justement, du numérique dans dans la pédagogie, dans leur vie, au jour le jour. Et surtout, ils avaient aussi l'impression d'être hyper surveillés par l'État.
C'est pas faux, mais est-ce que pendant votre atelier, ils avaient débranché leur numérique, ce qu'ils avaient sur la table ?
Ah non, mais on était justement dans un atelier, voilà, nouvelle technique de communication, donc ils l'avaient débranché.
Mais peut-être que d'habitude, quand ils sont au resto, ils allument aussi, peut-être que leur gamin, ils ont acheté un smartphone à 8 ans, voilà. Donc ça passe. Alors, je suis pas là pour donner, pour déballer l'exemplarité que je n'ai pas, hein. Mais... ouais, je crois quand même, enfin je crois, c'est prétentieux de dire ça, les micro-résistances, bah ouais, par exemple, voilà, bah je vais pas chez Google, je m'inscris pas sur Facebook, je débranche mon smartphone, et c'est pas si simple, ça je reconnais.
Mais c'est compliqué parce que c'est là, moi, bon, je suis résistante par rapport à ça, mais par exemple là, je sais plus, il y a 2 mois, ma banque, j'ai reçu un message comme quoi on avait pu pouvoir accéder à notre compte en ligne. Sans smartphone.
Ouais, pour les autorisations.
Pour les autorisations.
Exactement, ouais, tout à fait.
Je dis, bah, moi, j'ai pas de smartphone. Donc mon conseiller, il dit, oh, bah, vous ferez autrement. Sauf que bon, il y avait quand même une solution. Donc j'ai un petit boîtier et puis je scanne. Il y a un QR code à l'écran de mon ordinateur. C'est quoi ? Le problème, c'est que cette solution, je l'ai eue parce que j'ai insisté. Je me suis dit,
il faut se battre. Il a fallu que vous battiez pour avoir une solution alternative.
Il y a plein de gens qui disent, du coup, je suis obligé de prendre un smartphone. Bah non, là, c'est à la banque de s'adapter à moi et pas à moi de m'adapter à la banque. Quoi.
Et la BNP, elle a fait le contraire. C'est qu'avant, tu avais l'authentification avec une carte et en fait, ils l'ont supprimée pour que maintenant tout passe par les applications. Ouais.
Oui, c'est... Mais t'as quand même, pour les gens qui n'ont pas de smartphone, comme moi, un boîtier.
C'est ce que je te disais, toutes les banques, en fait, certaines reviennent là-dessus, tu n'as plus le boîtier, justement. Donc, si tu n'as pas de smartphone, tu ne pourras plus accéder à certaines informations. Et pour en revenir à ce que disait Sylviane, et pour en revenir à ce qu'on parlait du taylorisme tout à l'heure, je fais un peu le rapprochement, c'est que... L'informatique a permis une certaine forme de taylorisme. Donc, c'est aussi pour ça maintenant que quand tu vas à la CAF, à la Poste ou autre part, la personne qui est en face de toi n'a plus accès physiquement à tes informations. On va passer par Internet pour demander à une autre personne de traiter ton dossier. Et ce petit objet-là a permis que toi, tu puisses le faire partout, tout le temps. Et c'est aussi ça qui a fait que... Enfin, c'est ça, à l'heure actuelle, qui fait que on essaie de... Comment dire ? Moi, je pourrais le... C'est aussi pour ça qu'on a du mal à s'en passer, c'est que les systèmes ont fait en sorte pour que on ait toujours besoin d'avoir accès à Internet. Et aujourd'hui, Internet, pour beaucoup de personnes, c'est le smartphone et c'est des applications
qui en plus te permettent de faire moins de choses que si tu passais directement par un ordinateur et par Internet, parce que les applications ne t'offrent pas la possibilité de faire tout ce que tu pouvais faire sur Internet. Et c'est aussi ça qui est dramatique, je trouve.
Mais pour rebondir et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi le moyen d'économiser du travail. Parce que comme tu disais, c'est-à-dire que par exemple, moi je vais prendre mon ordinateur, même l'ordinateur, pas forcément le smartphone, hein, donc je vais consulter mon compte, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. Hein. Je veux pas être déterministe ou faire une espèce de prolongement un peu simpliste, hein, mais une nouvelle fois, la technologie permet de remplacer des gens, tout simplement. Hein. Les distributeurs automatiques de billets, les DAB, les GAB, etc., c'est aussi un moyen de remplacer des gens. Le fait que, par exemple, j'ai plus besoin d'aller de me déplacer, de m'adresser à quelqu'un pour avoir ce qui est sur mon compte ou de faire des virements, mm-hmm. bah, c'est aussi un moyen. C'est moi qui vais d'une certaine manière travailler et c'est moi qui vais, comment ça s'appelle, et en même temps à toute heure. On va me dire, mais regardez, mais vous êtes libre, c'est merveilleux, vous êtes libre là.
Et donc,
faire ça à toute heure.
J'aurais donc trois questions. On remplace du travail. Hein. Mais du coup, donc ça coûte moins cher au final, vu qu'il y a moins de personnes à embaucher. Mais est-ce que le prix des services a diminué ?
Non.
La réponse est non. En fait, on supprime plein de travail. En fait, on dit aux personnes qu'il faut travailler de plus en plus. C'est aberrant, vu qu'on s'arrange pour qu'il y ait pour supprimer du travail. De cette façon, tu as aussi de dire, bah, c'est bien, parce qu'en fait, tu as de moins en moins de contacts humains. Est-ce que c'est bien, le fait justement d'avoir... En fait, l'informatique a permis de rapprocher des personnes qui sont éloignées de millions de kilomètres. Et finalement... Tu viens de le dire, grâce à ça, je peux faire tout ce que je veux sans rencontrer des personnes. C'est dramatique, je trouve.
Et on ne parle plus à nos voisins. Voilà.
C'est dramatique, je trouve. Tout ce que l'informatique pourrait nous offrir de bien, c'est-à-dire bah, en fait, travailler 2 heures par jour et discuter vraiment avec son voisin et payer moins cher des services qui sont automatisés, bah, finalement, l'informatique ne répond pas à ça.
Tu nous avais dit que tu avais travaillé un peu sur les data centers, donc pour finir, Simon, tu recaleras ça, je sais pas trop, problème écologique oui. créé par les GAFAM et les centres de données.
Ah, vas-y, je te laisse poser la question. Vas-y.
Tu voulais nous dire trois trucs là-dessus.
Alors, les data centers. Je donne quelques chiffres, ouais, faut que tu comprends si c'est trop long.
Trop long.
En 2024, le premier pays d'accueil des data centers, c'est les États-Unis. Donc il y avait à peu près 3400 data centers. Alors, dans l'Union européenne, ensuite, c'est l'Allemagne. Et nous, on doit être en 7 ou 8e position, la France, avec... alors, c'est, les chiffres ont changé, je pense, il y en a un peu plus maintenant. Donc, 243 data centers. Alors, effectivement, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de débats aussi sur, les, sur l'impact écologique des GAFAM et du numérique en général. Alors, je vais dire des choses un petit peu, peut-être un petit peu banales. Je vais le dire quand même. Alors, il y a une chose, à mon avis, qui est intéressante, c'est de... peut-être que pendant un certain temps, il y a une espèce d'illusion de croire que le numérique, c'était de l'immatériel. Donc, si c'est immatériel, finalement, ça n'a pas d'impact.
Bah, le cloud, c'est dans les nuages. Ouais. Donc,
voilà, exactement. Ou alors, quand j'envoie un SMS ou je ne sais pas quoi, ou un mail, voilà, c'est immatériel. Donc, voilà. Sauf qu'il suffit
La dématérialisation du ticket de caisse, hein,
voilà,
c'est un exemple.
Dématérialisation du ticket de caisse. En économie, des fois, on parle dématérialisation de la monnaie ou des choses comme ça. Enfin, bref. Donc, tout ça, effectivement, c'est du pipeau. Hein. Donc, on sait très bien que l'économie, même si elle est en partie dématérialisée, on ne peut pas dire qu'elle soit totalement dématérialisée, notamment par l'impact des GAFAM. Il y a quand même une substance matérielle, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut quand même des ordinateurs, il faut quand même des smartphones, il faut des câbles, il faut des fils, ouais. Il faut produire de l'énergie, il faut des usines, il faut des mines.
Hein, il faut des climatiseurs pour rafraîchir les data centers.
Il faut de la flotte, beaucoup d'eau, ouais, beaucoup d'eau. C'est ça, il faut du Coltrane, il faut une soixantaine de minerais pour construire à peu près, de métaux pour construire à peu près, comment dirais-je, un smartphone. Mmh. Donc tout ça montre comme un impact qui est absolument pas négligeable. Au niveau des data centers, bah, effectivement, ça consomme tout ce qu'on vient de dire là. Donc il faut les refroidir, etc. Enfin, je vais pas répéter. Et puis il y a la question de l'énergie, effectivement. Donc là, aujourd'hui, alors d'après les chiffres que j'avais en France, ça représenterait à peu près 2% de la... que les data centers, ça représente à peu près 2% de la consommation électrique. Mais c'était avant, on va dire, l'explosion de l'IA. Donc, ah oui. Avec l'explosion de l'IA, les chiffres... Alors, j'ai trouvé des chiffres entre 4 et 12%. Enfin, on annonce dans une quinzaine d'années, entre 4 et 12% de l'électricité totale. Alors, je pense quand même que la question est assez ne doit pas uniquement être centrée sur les GAFAM, mais plus particulièrement, en fait, je pense que ce genre de discussion s'inscrit en fait dans le débat autour du capitalisme, quoi.
Oui, hein? Complètement, de toute façon. Il n'y a pas que eux qui utilisent les data centers, tout le système, quoi. Ma banque qui veut tout faire avec le smartphone, ben voilà, quoi, c'est pareil, ça y contribue aussi.
Alors, à partir de là, si je fais une typologie, on pourrait recenser au moins, on va dire, 4 positions. Première position, ben, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu ce que pensent les grands cadors des GAFAM et puis d'autres personnes, enfin pas que d'ailleurs. Hein. Donc c'est le technosolutionnisme. Ben, on s'en fout, on n'a qu'à continuer, ça n'a aucune importance. De toute façon, le réchauffement climatique, tout ça, bon, c'est pas grave. Hein. Puis de toute façon, on aura échoué les gens, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu business as usual, quoi. Donc on continue comme si de rien n'était. Deuxième manière, alors c'est une typologie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, d'accord. Deuxième typologie, le capitalisme vert. Donc on va faire de l'innovation verte. Bah, au niveau de l'énergie, bah, le problème, c'est effectivement la production de l'énergie. Bah, on va faire du vert. Hein, donc on va faire de l'éolien, on va faire du solaire, etc. Ça va résoudre le problème.
Mais surtout, hein, on ne parle pas de décroissance. Il faut continuer vraiment. Exactement. Sur notre lancée. Hein, parce que
tout à fait.
Il faut faire du vert, mais en continuant sur une démarche consumériste.
Exactement. Troisième truc, c'est assez complexe, mais disons, certains socialistes ou communistes, finalement, sont aussi dans la croissance, considèrent qu'il faut continuer la croissance, et que les GAFAM, finalement, ça pose problème parce que c'est capitaliste, etc., qu'il y a de l'exploitation et tout ça. Il faut s'emparer de l'outil numérique, mais il ne faut pas le dénigrer. Il faut quand même continuer la croissance, etc. Sans forcément dénigrer aussi des problèmes, environnementaux. Hein. Puis quatrième position, je fais exprès bien sûr de prendre les deux. T'as compris, hein. Première extrême, quatrième extrême. Et la quatrième, c'est la décroissance, tout simplement. Là, on va littéralement dans le mur. Il y a pas mal de choses. Hein. Donc il faut absolument décroître, il faut complètement rompre avec le productivisme. Parce que les GAFAM, finalement, le numérique, ça s'accompagne de l'extractivisme. Donc il faut des mines. Alors après, il y a même des gens qui ont des débats en se disant il faudra peut-être ouvrir des mines en France, par exemple. Parce que finalement, pourquoi uniquement ouvrir des mines dans des pays en développement dans laquelle les conditions de travail sont, je vais le dire, complètement dégueulasses, c'est absolument épouvantable, alimente des trafics. Hein, vous parliez du coltan, etc., des choses absolument abjectes. Donc, il y a des gens, enfin, des gens, notamment. Bon, bref.
Il y a un projet de mine de lithium qui doit être réouvert en France.
Oui, tout à fait.
Qui avait été fermé. Mais...
Oui, tout à fait. Des projets comme ça, et des projets de mine d'or aussi, par exemple, parce qu'il y a de l'or aussi dans les smartphones. Hein, voilà. Donc, alors, les gens qui sont dans la décroissance disent par exemple bah, que ça, on peut, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a encore plein de métaux dans le sous-sol. Donc, la ressource n'est pas si rare que ça. Elle existe. Hein. On peut le trouver, comment dirais-je, au fond de la mer. Donc, on va continuer à coloniser la mer. Voilà, exactement, les nodules de la mer. Pourquoi pas aussi suivre, c'est-à-dire, je parlais de science-fiction. Aller exploiter les minerais des astéroïdes ou sur la Lune ou je ne sais pas où.
Oui, parce qu'en fait, rien que pour les voitures électriques, alors je ne me rappelle plus le nom de cette jeune femme qui est spécialiste dans les mines et tout ça, elle dit les minerais, il n'y en a pas assez maintenant. Il faut, pour avoir le même poids d'or, par exemple, qu'il y a 50 ans, il faut creuser bien plus, quoi. Il faut faire des mines bien plus importantes. Le rendement des mines, il s'essouffle aussi. Alors, peut-être pas pour tous les métaux, mais il y a les terres rares et tout ça, c'est pas impossible que ce soit comme ça, quoi.
Alors, sans doute, mais ce que dit... Alors, je sais pas si c'est là une consigne, moi je cite... Je m'appuie un peu là sur Célia Izoard, si je me souviens bien de son nom. C'est un bouquin très intéressant, dont le nom m'échappe, mais vraiment très très intéressante, qui parlait d'extractivisme. Elle me disait non, par exemple, le pic pétrolier, on a encore du pétrole. Et là, on pourrait reparler de l'innovation, hein, avec la fracturation hydraulique, etc. Finalement, on s'est rendu compte que les réserves de pétrole étaient là. Alors effectivement, après, l'impact environnemental...
C'est encore pire.
On est d'accord, c'est vraiment terrible. Hein, terrible. Alors, pour des gens comme Trump, c'est absolument pas terrible du tout. C'est,
il est à fond pour ça, lui.
Les États-Unis sont devenus, je crois, le premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Hein. On a quand même pas mal importé de GNL avec le conflit qu'on sait actuellement des États-Unis. Donc, il y a ça. Et si je continue un tout petit peu sur la décroissance, par exemple, il y a aussi peut-être l'illusion peut-être qu'on nous vend, c'est vrai, et auquel des fois, malheureusement, on peut plus ou moins croire, c'est tout simplement de réparer les objets, de les recycler. Voilà, j'y arrive. Donc, du recyclage des objets. Voilà. Donc, l'impact environnemental, il est assez complexe. Donc, il va de soi que les différents GAFAM, ils sont plutôt dans le premier modèle, quoi. C'est pas des gens... Alors après, ils sont malins, c'est ce que je disais tout à l'heure. On pourrait imaginer, par exemple, ça a peut-être déjà existé, alors je vous avoue que je sais pas, j'ai pas vu ça, mais on peut imaginer que les différentes plateformes disent mais regardez, on est absolument écolo, on est génial, puisqu'on développe la vente par occasion.
Oui,
au lieu de jeter vos vêtements, au lieu de les cramer, je sais pas quoi, au lieu de balancer vos trucs, vos vieux bouquins, vendez-les, quoi. Voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir... Alors, Ce qui est en plus intéressant, quelque part, si je prends un peu de hauteur, c'est que tout ça contribue aussi à marchandiser. Donc finalement, l'économie, c'est un peu ce que disait Marcel Mauss, est devant nous, quoi. Hein, l'homme économique est encore devant nous. On est dedans, là. Hein. Donc, sous couvert, en plus de, comment ça s'appelle, de ce qui est intéressant d'écologie, c'est qu'on dit, regardez, au lieu de gaspiller vos trucs, vendez-le, quoi. Vendez-le.
Non, et puis de toute façon, avec les sommes qu'ils dégagent. Dans les bénéfices, ils peuvent facilement s'acheter des puits de carbone.
Oui.
Et se revendiquer vers...
Moi, j'avais lu qu'Amazon voulait construire sa propre centrale nucléaire, non ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a ça aussi. Alors, ils vont racheter aussi, je crois qu'il y en a un des quatre, là, c'est peut-être Microsoft ou Amazon, je ne sais plus, qui voulait racheter une ancienne centrale dans laquelle il y a eu des petits problèmes, la Three Mile Island.
Dans les années
70, il y avait un petit souci.
Ouais.
Alors, en plus, alors, c'est ça qui est intéressant, tu tends presque la perche, c'est que la France, là-dedans, quelle est un petit peu l'argumentation, notamment de Macron, c'est de dire, mais venez en France, les gars, venez en France, on va vous... Si je dis pas de bêtises, EDF produit trop d'électricité, donc alors, ma source, c'est le Canard Enchaîné. Dans le Canard Enchaîné, il disait qu'un quart de la production, je sais plus si l'ordre de grandeur était bon, un quart de la production électrique était vendue exactement, était exportée. Ouais. Donc là, des gens comme Macron et EDF peuvent dire, mais venez, venez vous installer en France. Il y a de l'espace, on va bien vous trouver quelques petits terrains qui ne servent plus à grand-chose, et vous allez pouvoir construire des data centers. Et
c'est
comme
le projet
nous,
d'aujourd'hui.
Exactement. Et nous, on est soi-disant bon en énergie, etc. On a un quart là en trop, on va pouvoir vous fournir l'électricité pas trop cher. Donc, d'une certaine manière, on construit, enfin, on attire. Et là, pour revenir sur la question de l'emploi, il faut être clair là-dessus. Hein. Ça crée très peu d'emplois, ça. Donc,
c'est les chercheurs là qui veut recruter, c'est ça?
Pas que des chercheurs, bah non, littéralement des chercheurs. Recruter des gens, donc installer sur des terrains, par exemple à la campagne ou même dans des villes, des data centers. Seul, exactement. Donc la construction, là il va y avoir de l'emploi, oui. Un petit peu. Mais après, effectivement, ça sera des techniciens qui, alors je connais pas en détail, mais qui vont venir alimenter. Quoi. Ah ben ça sera pas de l'emploi durable. Hein. Bah il faut être clair là-dessus. Voilà. Et puis, quand on produit de l'électricité dans une centrale nucléaire, c'est pas très intensif en travail, comme on dit en économie. Hein. C'est pas avec ça qu'on va produire énormément de choses. Quoi.
Alors, moi, j'ai peut-être une dernière question, je sais pas là. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que donc, l'ensemble de ces GAFAM-là qui investissent beaucoup, est-ce qu'ils ne déterminent pas les innovations à venir, l'investissement à venir? Et donc, du coup, la société à venir, et donc, du coup, le futur, quand même, vu les sommes qu'ils investissent énormément dans les innovations, quoi. Et dans la recherche-développement.
Bah, question, une fois intéressante et fort complexe. Moi, je pense, c'est peut-être parce que je suis un peu naïf, hein. Je vais pas tout leur mettre sur le dos, quoi. Parce que finalement, je pense que. Enfin, ils ont bien compris qu'il y a une emprise aussi à développer, etc. Alors, est-ce qu'ils déterminent tout? Bah, ils essayent quand même. Ils ont un modèle quand même dans la tête. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont rapprochés d'un type comme Trump. Parce qu'un mec comme Jeff Bezos, par exemple, ou même le PDG de Meta, là, c'est Zuckerberg, au départ, c'était quand même pas des gens très très proches de Trump. Donc ils ont sans doute des projets de société dans la tête, mais on n'est pas que dans le futur, on est aussi dans le présent. C'est-à-dire que l'emprise des réseaux, l'emprise de la communication, l'emprise du narcissisme, l'emprise du smartphone dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est pas du futur. C'est une réalité. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a vraiment une véritable emprise. Enfin, même si c'est peut-être un peu impossible de dire ça, je vais quand même le dire. Donc, ils sont là-dedans. Et pour rebondir sur ce que tu dis, oui, bah, effectivement, ils ont une véritable puissance financière. Alors, est-ce qu'ils sont vulnérables ou pas? Bah, historiquement parlant, il y a quand même des entreprises qui sont déjà croûtées, hein, ça s'est déjà arrivé. Hein. Si on prend des entreprises hors GAFAM, Kodak par exemple, c'est bien cassé la figure. Hein. Nokia existe encore, mais a bien aussi bien chuté. Hein. Donc la crise économique pour arriver, ils sont quand même extrêmement puissants. En plus, alors ça j'en ai pas trop parlé, mais ils se sont diversifiés. Hein. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entre eux. Et là, ça va aller peut-être dans ton sens, parce que peut-être que ta question... Je ne sais pas comment tu répondrais toi-même à la question si eux-mêmes pourraient, imprégner. C'est quand même des gens aussi qui investissent, par exemple, dans la santé et dans l'école. Donc, c'est quand même des gens qui, par exemple, n'aiment pas trop l'école publique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils préféreraient des Google School ou des Meta School ou de je ne sais pas quoi, du school, quoi. Et puis, dans la santé aussi. Hein. Donc c'est vrai que ils se diversifient. Alors par rapport à ça, les solutions, j'en ai pas de mon chapeau. Hein. J'ai parlé de petite résistance, mais ça suffira pas. Je pense que le politique, vous parlez de l'État tout à l'heure, je pense que l'État fait finalement un rôle, mais peut-être que l'État n'a pas envie de freiner le développement.
Quand il reçoit Zuckerberg à l'Élysée,
tapis rouge, c'est ça.
Voilà, quoi, après tout est dit.
Ouais. Parfait, je pense qu'on a réussi à faire le tour. Il est 15h56, nous sommes toujours le 11 juillet 2025 et il fait 28 degrés. En tout cas, merci à toutes et à tous pour l'émission. Je pense que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les parcourir internet, peu importe le moteur de recherche, vous devrez trouver des informations. Et puis voilà, merci encore et à bientôt.
Ciao. À bientôt.